Bienvenue à ce discours. De le préparer m'a amené dans, m'a fait voyager dans plein d'espaces intérieurs et de compréhension. Et avec toujours ce questionnement de qu'est-ce qui va vraiment être utile. Alors je vais essayer de naviguer un chemin au milieu de tout ça en espérant que ça va pouvoir être fructueux pour vous. J'aimerais bien en venir à l'impermanence, revenir sur l'impermanence, mais en faisant un long chemin avant d'y arriver, qui me semble nécessaire en fait pour avoir une compréhension plus peut-être plus vaste de l'impermanence dont on a déjà discuté et dont chacun a déjà un peu compris certaines bases. Et il m'a semblé intéressant de revenir à quelque chose qui, moi, me fascine et dont j'ai déjà souvent parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais vous trouverez plus de détails dans d'autres discours et puis en faisant vous-même des recherches. Mais c'est sur le fonctionnement de la perception. Comment l'acte de percevoir, en fait. Comment ça se fait qu'on perçoit et qu'est-ce qu'on perçoit. Alors, la perception, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit souvent. On perçoit les choses et on les prend pour, quelque part, directement réel, tel quel, existant tel quel, mais en fait c'est loin d'être le cas. Tout ce qu'on perçoit est très très questionnable en fait dans la manière dont on le perçoit, et pour bien des raisons en fait, pas pour juste une ou deux raisons, mais pour plusieurs raisons, qui se passent à plusieurs niveaux. Il y a un processus dans la perception de transformation de la perception qui se passe à plusieurs niveaux. Et le premier niveau peut-être, c'est au moment où donc tout ce qui est perception, tout ce qui est vibration en fait, et qui vient faire vibrer les tympans, qui vient impacter les yeux, tout ce qui est sensoriel en fait, perçu par nos cinq sens, se produit sous forme de vibrations. Et ces vibrations sont perçues par nos organes. Et nos organes, en fait, déjà, c'est quelque chose qui m'a, c'est ça fait longtemps que ça m'intrigue, c'est de me dire, ben voilà, les yeux, on a tous des yeux différents. Enfin, je veux dire, d'autres animaux ont des yeux très très différents des nôtres. Et du coup, qu'est-ce qu'ils voient? Quand il regarde la même chose que moi, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit autre chose? Ou parfois, souvent, quand je passe devant le cheval, là, je me demande, je le regarde, et puis je le vois qu'il me regarde, et je me demande ce qu'il voit. Et je ne sais pas, en fait, ce qu'il voit. Moi, j'ai mon image de moi que je vois, mais je ne sais pas, lui, il voit quelque chose de peut-être complètement différent. Parce que déjà, ses yeux sont pas les mêmes que les miens. C'est les organes de perception au départ qui captent les vibrations. Et puis il y a cette deuxième étape qui est absolument cruciale, c'est que ces organes en fait transmettent les informations perçues au cerveau, et dans le cerveau en fait le cerveau lui a un travail. J'ai un livre qui est assez fascinant, de une discussion entre Mathieu Ricard et Wolf Singer, qui est neuroscientifique, et qui expliquait très bien comment le cerveau en fait capte toutes ces informations et reconstruit l'image la plus probable de ce que ça doit être. À chaque fois, en fait, ce qu'on perçoit est une probabilité, une best guess, ils appellent ça, un essai, en fait. C'est une proposition du cerveau. Ça doit être ça. Et donc, on a de nouveau, entre un criquet, un aigle et moi, on doit avoir des cerveaux assez différents. Donc, c'est-à-dire une manière de reconstituer ce qui a été perçu par les sens, de manière à le produire à la conscience, d'une façon autre. Et donc même si l'aigle a la même capacité de conscience et le criquet et moi-même, en fait les images, si on regarde la même chose, les images qu'on va voir, c'est peut-être pas du tout pareil. Et ça je trouve que c'est fondamental à comprendre. C'est un fondement en fait. Si on comprend ça, en fait déjà on en vient à, il y a déjà beaucoup d'humilité qui va s'installer sur, ok, c'est la manière dont je perçois cette chose. Ça ne veut pas dire que cette chose est comme ça. Et tout ce que je perçois, tout ce que je peux vraiment en dire, c'est que c'est la manière dont je le perçois. Je ne peux pas dire que ça existe tel quel. Et ça, beaucoup de discussions entre scientifiques, philosophes depuis très très longtemps. Déjà le Bouddha, je lisais un passage où il disait qu'on ne pouvait pas faire confiance aux cinq sens pour nous donner une image de ce qu'est la réalité. Et en physique, c'est absolument totalement clair. On parle même de faire de la physique, ou même réfléchir, c'est aller à l'encontre de ce que propose le cerveau. Et puis quand une image est perçue, Une image perçue, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc qu'il y a eu toutes ces vibrations qui sont passées par les sens, qui ont été transportées au cerveau. Le cerveau, lui, a fait une proposition de ce que ça devait être, en fait, de la meilleure proposition qu'il pouvait faire. Cette proposition est faite à la conscience. C'est à ce moment-là qu'on devient conscient d'une perception. Nous, on appelle perception le moment où on est conscient qu'on perçoit quelque chose. Mais en fait, le moment où l'image est présentée à notre esprit, elle a déjà été retravaillée, notamment par la mémoire. Il y a des recherches qui montrent que toutes les images qu'on perçoit sont d'abord passées par la mémoire, et ça, on n'en est pas conscient. Une grosse partie de cette connaissance, comment on fait pour refabriquer des... Parce que c'est quand même extrêmement complexe, ça va à une vitesse phénoménale, et c'est aussi un monde très très complexe, toutes ces images qu'on a, toutes ces odeurs, toutes ces perceptions en fait qu'on a. Comment est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce qu'on reconstruit le rouge rouge, pourquoi est-ce qu'on reconstruit telle forme comme ceci, comme cela? Visiblement, c'est dans l'évolution de l'espèce, et de nouveau on ne sait pas comment ont évolué les autres espèces, mais dans l'évolution de l'espèce, il y a eu peu à peu une connaissance, en fait. C'est comme c'est complètement, probablement complètement inconscient, mais on a attribué des formes et des couleurs à des ondes vibratoires. Ce qui veut dire que quand une onde est comme ça, eh ben on l'a appelée rouge. Et du coup, ça s'est formé comme rouge dans notre esprit. Et cette connaissance, elle est transmise par les jeunes. Ce qui veut dire que, de nouveau, dans ce livre de Wolf Singer nous explique très bien que un nouveau-né naît avec une architecture cérébrale complète au niveau de la connaissance implicite du monde. C'est-à-dire qu'il va avoir une connaissance qu'il n'a pas acquis lui-même, qu'il n'a pas formé lui-même de par son expérience, de par son vécu, mais qu'il a reçu en héritage de l'espèce. Donc une image est présentée à notre esprit. Et puis, cette image, tu vas y venir autrement. Donc on peut déjà en dire que là, la perception qu'on a, en tant qu'humain, on va avoir une perception peut-être plus ou moins similaire, mais qui doit quand même différer suivant les cultures, hein, mais plus ou moins similaire de quand on voit un canard ou quand on voit un couteau, hein, plus ou moins similaire, ce qui n'est pas sûr du tout avec les autres espèces. Mais après, on va avoir une réponse psychologique aussi à ce qui est perçu, qui elle aussi sera inconsciente. En fonction de notre culture, par exemple, en fonction de notre culture, on va pas percevoir les mêmes choses. C'est ça que je veux dire. On ne va pas percevoir les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses qui vont venir dans notre réalité. Par exemple, en Inde, ben, il y a beaucoup de dévots de Shiva. Beaucoup de gens pour qui Shiva, c'est tout le temps, Shiva est tout le temps dans leur esprit, dans leur cœur, dans leurs paroles, dans leurs mantras, dans leurs réflexions et tout ça. Ce qui veut dire que Shiva fait partie de leur expérience. C'est dans leur esprit, c'est là, dans le moment, et du coup, ils ont une relation avec Shiva, ils ont un ressenti de Shiva, et Shiva apparaît quotidiennement dans leur expérience. Et nous, ça, on n'a pas, parce que c'est pas, dans notre culture, ça n'existe pas. Donc il y a des choses qui vont être très culturelles que certaines peuplades vont voir et d'autres peuplades ne vont pas voir. Certaines peuplades vont faire l'expérience de certaines choses et d'autres peuplades vont faire l'expérience d'autres choses. Et que ça soit imaginaire ou non, ne change pas grand-chose parce que tout ce qu'on imagine, en fait, on le perçoit. Hein, vous voyez, on parle bien de la perception. Est-ce qu'on imagine, on le perçoit et on le vit. Par exemple, on peut avoir une peur imaginaire, pour des raisons imaginaires, mais on vit quand même pleinement la peur. Et si des gens aiment Shiva, au moment où Shiva apparaît dans leur esprit, ben, ils ressentent de l'amour. Donc je vais dire, c'est vraiment réel dans l'expérience de chacun. Et culturellement, on va avoir des expériences très très différentes. Et on n'arrive pas à se rendre compte de ça. C'est très très difficile d'imaginer combien la vision d'autres peuples peut être radicalement différente à ce niveau. Pas au niveau des couleurs et tout ça. Pas au niveau physiologique, mais au niveau psychologique, au niveau de la culture, au niveau du vécu. Peut percevoir tout à fait un autre monde, en fait, qui nous est à nous inconnu. Et eux, de leur côté, n'ont pas été du tout éduqués comme nous, mais il y a plein de choses qui ne sont pas perçues entre cultures. Et c'est très difficile de se rendre compte de ça et d'avoir l'ouverture d'esprit pour pouvoir voyager, par exemple, ailleurs, et de ressentir ça. Et dans notre expérience du quotidien, ce qu'on va percevoir aussi va être différent individuellement en fonction de nos désirs, nos peurs. nos préférences. Donc il y a, dans un livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle, je lisais cet exemple, il prenait l'exemple de quelques personnes qui rentrent dans une pièce, dans laquelle ils ne sont jamais rentrés, chez quelqu'un, et quelqu'un par exemple qui aime la musique va directement voir la guitare qui est dans le coin. Quelqu'un qui a peur des araignées va directement voir les 2-3 toiles qui sont là. Quelqu'un qui a un enfant va voir qu'il y a 2-3 petits jouets d'enfant là, dans le coin. Et en fait, en fonction de ce qui existe dans notre réalité, ce qui est déjà en place dans notre cerveau, que ça soit une peur, que ça soit une affinité, que ça soit une réalité de notre quotidien, on va plus vite voir certaines choses et il y a des choses qu'on ne va pas du tout voir. Et quand les personnes vont sortir de la pièce, en fait, elles n'auront pas vécu la même expérience. Et donc, on vit dans le même monde, mais on vit pas la même expérience. Et puis après, sur ça, sur tout ça, se rajoute encore nos états d'esprit. Par exemple, si nous, on marche dans la rue et qu'on est pleinement amoureux, on va pas voir les gens qu'on croise de la même manière que si on est anxieux. L'expérience, le moment vécu, la perception va être transformée par l'état d'esprit. Et tout ce qu'on va voir, on va le voir différemment en fonction de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Si on est bienveillant, on va avoir une vision du monde, on va avoir une vision des gens, une vision de nous-mêmes et du coup des expériences, des perceptions. Même ce qu'on va voir va être différent de si on est dans la peur de manquer et enfermé dans notre ego. Il y a un dicton qui dit ça, qui est assez amusant, c'est quand un pickpocket croise un sage, tout ce qu'il voit c'est sa poche. Parce que des pickpockets, donc il regarde la poche et tout, il voit pas qu'il croise un sage. Parce que lui, dans ce qui est important pour lui, c'est comment il va pouvoir, et peut-être il s'en manque, et comment il va pouvoir utiliser cette situation, cette rencontre. Et donc, quand le pickpocket voit le sage, il voit pas un sage, il voit que sa poche. Et donc, nous avons des expériences du monde très très différentes, les uns et les unes des autres. Des expériences très très différentes. Ce qui nous amène à avoir notre réalité. C'est très très fort notre réalité. Et ce qui est compliqué, c'est quand on croit que notre réalité, c'est la réalité. Parce qu'à ce moment-là, on devient vite en conflit avec tout ce qui est incompréhensible par notre manière de voir ou qui vient mettre au défi notre réalité. Ça vient aussi où on peut faire vraiment du prosélytisme et essayer de rallier les autres à notre manière de voir en disant si c'est comme ça, mais non les choses elles sont comme ça, mais non les choses elles sont comme ça, sans avoir la finesse de dire moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est pas du tout la même chose. Et on devrait apprendre à parler comme ça depuis qu'on est enfant. En fait, on devrait toujours apprendre, et c'est difficile de se transformer quand on a un cerveau de 50 ans, mais on devrait toujours apprendre à dire, plutôt que de dire ce gâteau est bon, de dire j'aime ce gâteau. C'est pas pareil. Quand on dit ce gâteau est bon, on dit en fait que la qualité de bon est dans le gâteau. Et que du coup, il devrait être bon pour tout le monde, puisque la qualité est dans le gâteau. Et quelqu'un qui du coup va goûter ce gâteau et va pas le trouver bon, ben c'est qu'il a mauvais goût. Parce que ce gâteau, il est bon. Oui, il y a quelque chose d'assertif. J'aime ce gâteau, ça dit plus en fait la réalité de ce qui est en train de se passer quand on prend un morceau de gâteau et qu'on se régale. J'aime ce gâteau, ça c'est juste. Donc c'est un positionnement différent par rapport à la réalité qu'on perçoit. Et ce positionnement-là, il est très important de l'acquérir, et la pratique de la méditation aide beaucoup à ça. Il y a une quantité telle de vibrations dans l'air. On en perçoit très très peu en fait. Je crois qu'on perçoit moins d'1% de la totalité de ce qui se produit et qui est perçu par le cerveau. Et dans tout ce qui est décodé et interprété, on a encore qu'une infime partie qui vient à la conscience. Donc il y a plein de choses qui sont perçues, mais qu'on ne perçoit pas consciemment. Donc dans cette immensité de perception, en fait, on pourrait se dire, ah, j'aimerais... Quand on dit parfois voir la réalité telle qu'elle est, ben à ce niveau-là, c'est pas possible. Déjà, on n'est pas équipé. On n'a pas un cerveau suffisamment qui peut processer en temps réel autant d'informations, qui pourrait chaque fois En fait, qu'on pourrait voir que toutes ces choses sont vibrations. Alors, c'est pour ça que c'est très utile que le cerveau nous produise un produit fini, nous propose un produit fini, nous présente une image. Donc, par exemple, imaginons qu'on marche dans un parc et puis il y a un ami ou une amie qui arrive. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va rentrer dans le champ visuel, d'abord, très vite, en fait, le cerveau va voir que ça bouge. Donc, tout ce qui est objet inerte est éliminé. C'est pas ça. Il procède par élimination, comme ça. Je lisais un bouquin là-dessus, c'est fascinant. Il procède par élimination. Donc, directement, il va voir que ça bouge. Tout ce qui est objet qui sont inertes ou les arbres ou hop, c'est éliminé. C'est pas ça. Et puis, il va voir que c'est vertical. Et sur deux pattes. Donc tout ce qui est animaux va être éliminé, parce qu'il y a très peu de chances que ce soit un grizzly en colère. Donc et en fait c'est toutes des hypothèses. Vu que c'est pas sur quatre pattes, tac tac ça va être éliminé. Hop, ça va être un humain. Et puis après on va voir aussi les contours du visage, tous les et du coup les yeux sont comme ça, telle et telle et telle et telle personne sont éliminées, tac tac tac. Et puis peu à peu on va en venir à tiens c'est Joséphine. Et nous, c'est là qu'on rentre en jeu, on rencontre Joséphine. Et avant ça, en fait, on n'a pas perçu tout ce boulot qui avait été fait. Et heureusement, ce serait impossible. Ce serait impossible de vivre. Parce qu'en même temps, il y a les mouches qui passent et les abeilles, il y a les odeurs des fleurs, il y a toutes le soleil qui passe dans les feuilles et tout ça. Si on voyait, j'ai envie de dire, les codes de tout ça et la complexité de tout ça, c'est impossible. Ça serait probablement une définition de la folie, et peut-être que dans certains états de folie, c'est un peu ce qui se passe, que ce processus de présenter des produits finis et fonctionnels ne se fait pas bien, en fait. Donc heureusement qu'il y a ce processus d'image. Mais ça pose des problèmes aussi, parce que du coup, on va rencontrer Joséphine comme si elle était un produit fini qui vient de la mémoire. Et du coup, on va pas vraiment se connecter, si on n'est pas attentif, à rencontrer un individu vivant en pleine transformation constamment. On va rencontrer une idée qu'on a d'une personne. Et quand on décline, en fait, cette compréhension partout, on voit qu'en fait, c'est hyper pratique d'avoir des raccourcis pour percevoir toute chose et comprendre et donner un sens à toutes choses qui sont perçues par les cinq sens, mais que ça pose ce problème qui, dans le bouddhisme, on appelle ça la solidification. C'est-à-dire que toute chose est en fait en mouvement constamment, mais on ne perçoit pas ce mouvement parce qu'on perçoit une image fixe. Et c'est pratique. Mais il faut savoir que c'est ça qui se passe. Il faut pas croire qu'une chose qu'on perçoit comme une chose fixe est en fait fixe, parce qu'elle n'est pas fixe. Et c'est très problématique à tout niveau, mais c'est surtout problématique quand il s'agit de notre femme ou de notre mari, ou de nos enfants. Et du coup, parce que ça veut dire que quand nos enfants de l'école ou quelqu'un de notre famille rentre, si on l'accueille avec ah bah tiens c'est mon fils, et ça peut s'arrêter là en fait. Et du coup la relation qu'on a, on a la relation avec l'image qu'on a de notre fils en nous, mais on ne rencontre pas là où il en est maintenant, au moment où il rentre. On n'a pas cette sensibilité de rencontrer l'individu dans sa totalité du moment. Non. C'est comme si c'est mon fils, c'est comme si c'était mon fils d'hier, mon fils d'avant-hier et mon fils d'avant-avant-hier. Il y a une continuité comme si c'était solide, comme s'il n'y avait pas de changement. Et pourtant, les changements, on le sait, les changements intérieurs, surtout pour les enfants. D'ailleurs, c'est une grande difficulté des parents, hein. C'est une grande difficulté des parents, c'est de suivre le changement des enfants. On a toujours un an ou deux de retard. On se comporte avec eux comme quand ils ont 12 ans, comme s'ils avaient 10 ans et tout. Et ils sont là pour taper sur la table et nous remettre les pendules à l'heure en disant. Mais plus finement que ça, en fait, chaque personne qu'on croise n'est pas la personne qu'on a croisée la dernière fois en réalité. Alors on est bien obligé d'avoir tous ces dossiers à propos d'elle qui se ramènent et qui forment une image extrêmement complexe. Ah, parce que si on a une longue relation avec une personne, c'est une image très très complexe qui revient. Relationnellement, émotionnellement, toutes les idées qu'on a à propos de ces personnes, tout le vécu qu'on a à propos de ces personnes, tout ça revient dans notre relation directement. Mais, et ça c'est de nouveau, c'est pratique, mais si on ne fait pas attention, on ne va pas vraiment être en contact. Il va pas vraiment y avoir une rencontre en fait. On va rester dans notre monde avec notre image et il va y avoir peu de relations vraiment. Et c'est ce qui se passe beaucoup, surtout, c'est ce qu'on appelle, quand on dit la routine tue, c'est ça en fait. C'est que on retourne au travail comme si c'était encore la même journée, encore la même journée, encore la même journée. Ou la méditation, on se remet à méditer comme si c'était la même méditation qu'hier, la même méditation qu'avant-hier. Et en fait, en figeant, on empêche de changer. Donc on empêche le nouveau. On empêche de faire l'expérience dans le moment présent, oui, de ce qui a changé. Et c'est valable pour tout. On peut faire une balade en forêt et ne pas voir un arbre. Parce que dès que nos yeux vont se poser sur arbre, c'est l'idée arbre qui va naître dans notre esprit, et en fait, on ne va pas regarder cet incroyable phénomène qui se produit dans notre conscience. On va voir, comme d'hab, un arbre. Qu'un arbre. Et on peut, en fait, pas traverser les choses. Quelque part, on les voit, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas avec la finesse du vivant. C'est comme des images mortes. Alors bien sûr, si on se promène en forêt, on va quand même voir des arbres plus que des immeubles. Et si on se promène en ville, on va plus voir des immeubles que des arbres. Mais on va pas vraiment faire l'expérience de l'arbre si on relationne à l'arbre à travers l'idée arbre. C'est une solidification nécessaire, encore une fois, mais problématique si on reste coincé par cette solidification. Ça m'a fait penser à cette phrase que j'entendais souvent au travail, avant à l'usine, mais on l'entend partout. Hein. Salut, ça va? Oh ouais, ça va. Comme Elodie, quoi. Ouais. Comme Elodie. Déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire l'Elodie, c'est comme ça, quoi. Aïe, c'est fait, c'est plié. Ça, déjà, il y a plus de questions à se poser. Le lundi, c'est comme le lundi d'avant, et comme le lundi d'avant, et comme le lundi d'avant, et les lundis d'après. Et là, en fait, ça perd son sens. Et là, on n'est plus en contact avec, en fait, le fait que les choses sont tout le temps différentes. C'est plus du tout vivant, en fait. Et on peut vivre dans cette manière de penser. Dans cette manière de ne pas sentir, et du coup, on peut vivre dans cette manière de ne pas vraiment vivre, en fait. Et si on pousse un peu plus loin, cette réflexion, et franchement, si vous avez cette tournure d'esprit, alors ça, c'est tout le monde, on a tous des chemins très différents, des manières d'arriver à générer des compréhensions différentes, mais si vous avez cette tournure d'esprit, c'est assez kiffant, en fait, de vraiment replonger dans la perception. Mais qu'est-ce qui se passe quand on s'éveille le matin? Alors on peut déjà se poser la question, qu'est-ce qui s'éveille? Ok, mais n'allons pas vers là pour le moment. Mais quand la conscience redescend sur la chaumière, et que là, on ouvre les yeux, blam, tout un monde réapparaît. Je, moi, le monde habituel, l'idée que j'ai de moi-même, la totalité de où j'en suis. Parfois, ça prend un peu du temps. Parfois, il faut du temps pour se rappeler à qu'est-ce que j'ai fait hier, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi aujourd'hui, tac, tac, tac. Mais déjà, en fait, c'est comme quand on allume un ordi, en fait, tous les écrans, si on n'a pas fermé les écrans, tac, ils se réouvrent tous et ils sont déjà tous là. Et on a l'impression, en fait, qu'on est le même. Et on démarre, en fait, comme si rien n'avait changé. Sauf si on a une migraine ou si y a un truc, alors il y a des petits détails, en fait, qui ont changé. Mais sinon, on pourrait redémarrer exactement comme si on était comme hier. Mais là, alors, on n'est pas profondément en relation avec nous-mêmes. Et le matin, c'est intéressant de quand on voit ces images et cette idée de soi qui revient, de prendre un temps pour rester dans cette espèce de flou ou se connecter à soi. Et ça fait partie de la pratique de la méditation, juste peut-être utiliser la respiration, sentir l'inspire, l'expire, sentir le corps qui est là tranquillement couché, la chaleur de la couette, et sans s'engager déjà dans toutes ces idées à propos de nous-mêmes qui viennent avec ce qu'on doit faire, et en laissant quelques minutes tout ça de côté. Et se sentir en contact avec la sensation d'être vivant, qui, elle, déjà existe indépendamment de tout un univers de nos idées de nous-mêmes. Une citation de Rumi, encore. À chaque instant, tu meurs et tu reviens à l'existence. À chaque instant, le monde est renouvelé, et nous ne sommes pas conscients de son renouvellement, puisqu'il demeure le même en apparence. Plus on a une image de nous-mêmes qu'on considère comme étant la totalité de ce qu'on est, ça passe cette phrase-là? Plus on a une image de nous-mêmes qu'on considère comme étant la totalité de ce qu'on est, moins on peut changer. Plus on est figé, Moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. Alors ça, par contre, moi, c'est pas possible, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. En fait, on appelle ça la connaissance de soi, mais c'est pas la connaissance de soi. C'est l'enfermement de soi. Cette manière de voir. Alors, c'est dit un peu péjorativement. Il y a une certaine utilité à ce genre de connaissance, de connaître nos capacités, de savoir nos talents et où on a des fragilités. Mais de se définir comme je suis comme ça nous enferme, en fait. Ça empêche d'être autrement. On a acquis l'idée que, ben voilà, nous, il est comme ça, je suis comme ça. En général, on pourrait dire que tout ce qui vient derrière je suis, déjà réduit. Je suis, c'est la sensation être. Je suis ceci, je suis cela. Et ça peut aller très loin, hein, si on va dans les philosophies mystiques, et je suis mon corps. C'est déjà réduire les possibilités que je peux aussi être autre chose que mon corps. Et tout ce qui vient après je suis déjà nous solidifie dans une posture, dans une idée de nous-mêmes. Et là, le langage aussi, il est important. Je trouve plus juste de dire je m'appelle Denis que de dire je suis Denis. Ça veut rien dire déjà, je suis Denis. Si on y réfléchit vraiment, ça ne veut rien dire. Je suis Denis. Mais non, Denis, c'est le nom qu'on a donné à ce que je suis. C'est pas pareil. On peut pas dire je suis Denis, ça veut rien dire en fait. Mais je m'appelle Denis, c'est plus juste. Dès qu'on met quelque chose derrière je suis, ça nous définit. Définit, inverse d'infini, inverse d'ouvert. Alors je pense pas qu'il faut avoir peur de se définir, mais il faut éviter de croire que c'est la totalité de ce qu'on est. Que cette définition, en dehors de cette définition-là, on n'a aucune existence et on n'est rien du tout. Et c'est un travail qu'on fait en méditation, je le décris très souvent, quand le mental ralentit, tout un tas de définitions de nous-mêmes n'apparaissent plus, puisqu'elles ont besoin d'une certaine activité mentale, elles ne sont plus vécues, elles ne sont plus ressenties, elles n'existent plus dans le moment, et même l'identité de papa ou notre profession et tout ça, si on ne s'en rappelle pas dans le moment, elle n'est pas là, et à ce moment-là, ce dont on fait l'expérience va être de quelque chose de plus fondamental de nous-mêmes, quelque chose de moins construit. Et de la même manière, par exemple, si on a une maladie chronique et qu'on dit, par exemple, moi j'ai de l'asthme. Si je dis je suis asthmatique, c'est pas pareil que dire j'ai de l'asthme. C'est comme si c'était ce que j'étais tout le temps. Mais en fait, il y a des moments où j'ai pas d'asthme. Et du coup, c'est faire une généralité de quelque chose qui n'est pas général. C'est ignorer tous les moments où je ne suis pas asthmatique, de dire je suis asthmatique. Parfois, j'ai de l'asthme. C'est pas la même chose en fait. Mais ça change la dynamique, ça change la relation qu'on a à soi-même. Pareil, je suis un enseignant, mais on n'est pas tout le temps enseignant. Je suis un papa et une maman, mais on n'est pas tout le temps un papa et une maman. Alors la solidification, elle est là partout, tout le temps, elle est utile, mais il faut la repérer de temps en temps et il faut y faire attention. Là, ce qui me vient dans les maladies chroniques aussi, il peut y avoir, par exemple, si on a une maladie qui génère une douleur dans le corps, et qu'on a ça depuis longtemps, peut-être depuis notre enfance, et que la sensation vient dans le corps, alors tout le dossier de ce qu'on a vécu depuis qu'on était enfant arrive avec. Et au lieu de ressentir une sensation qui s'exprime dans le moment, on revit une complexité que cette sensation a été recherchée. On a solidifié l'image de nouveau, je suis ceci ou je suis cela. Si par exemple moi je commence à avoir un petit peu de difficulté de respirer, ça peut être vécu comme ça y est, c'est mon asthme qui revient et là, toute mon histoire est là, toute mon histoire avec, et du coup ça peut être très très compliqué. Ou ça peut être accueilli comme juste une sensation physique dans le moment. Deux attitudes très différentes. Il y en a une qui est solidifiée, qui ramène toute une histoire comme si ça avait toujours été pareil depuis le début. Il y en a une qui laisse la place au fait que c'est quelque chose qui apparaît encore une fois, mais nouveau. Comme si c'était nouveau. Et en général, de le voir comme ça, c'est beaucoup plus libérateur. Donc cette pratique de la permanence qu'on a faite, qu'on a déjà un peu discutée, elle permet en fait de désolidifier. elle permet de voir que les choses ne sont pas si solides, parce que tout ce qu'on observe, c'est que rien ne dure. Toute chose a un début, une durée, une fin. Même après ça, on voit nos émotions, nos états d'esprit, tout ce qui est perception, tout ce qui est perceptible, tout ce qui est perceptible, un début, une durée, une fin. Et alors là, on voit en fait que les choses ne sont pas solides. Quand on observe la permanence, quand c'est l'objet de notre méditation, par exemple au moment où on sort d'une distraction, on sait tous que sur 1 heure de méditation, il y en a plein de distractions. Des moments où la conscience est là et puis des moments où la conscience n'est pas là. On sort d'une distraction. Au moment où on sort d'une distraction, on pourrait solidifier la situation et dire, ah là là, depuis le début de cette méditation, je suis distrait tout le temps en fait. Mais quand je reviens, ça dure 3 secondes et puis de nouveau, je suis distrait. Et du coup, en fait, déjà, on solidifie cette méditation en disant cette méditation qui a commencé il y a peut-être 30 minutes, cette méditation, au cours de cette méditation, je n'ai fait que être distrait. Déjà, c'est solidifier cette méditation comme si c'était une méditation uniforme et pas plein de moments. Et ça, c'est très problématique parce que du coup, on a la sensation d'échec, je n'arrête pas d'être distrait et tout, j'y arrive pas. Donc, on a solidifié le fait de la distraction, comme si elle était là tout le temps, et on a solidifié la notion de une méditation. Et si on voit la permanence, alors qu'est-ce qu'on voit? La pensée s'arrête, la conscience revient. Parce que tout change. Et hop, moment suivant. Et moment suivant. Et moment suivant. Il n'y a plus de combat, il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise, en fait, sur la solidification, qui est, c'est hyper efficace, en fait. Si vous pratiquez comme ça, si vous, quand vous vous posez, vous apprenez vraiment à observer la permanence, ça va faire que les moments vont être de plus en plus flashy, de plus en plus rapides. Parce que chaque moment est différent, chaque moment est différent, chaque moment est différent. Des choses démarrent, des choses s'arrêtent, des choses démarrent, des choses s'arrêtent. Et puis quand il va y avoir une distraction, là, on n'est plus au courant, hein. On n'est plus là. Mais dès qu'on va voir qu'on est distrait, hop, c'est reparti. La distraction s'arrête, tac, et puis il y a ça, et puis il y a ça, tac, tac, tac. Et en fait, et chaque moment existe par lui-même et en lui-même. Ce n'est pas une méditation. Et là, il n'y a plus de place pour le jugement. Et s'il y a du jugement et qu'on observe la permanence, on va voir un moment avec du jugement qui s'élève. Parce que tout change. Il y avait un moment, juste avant, il n'y avait pas de jugement. Et puis peut-être au moment où on le voit, on arrête. Et du coup, il n'y a plus de jugement. C'était un moment impermanent. Et c'est ce qu'on voit. Donc le jugement, en fait, on s'en fout. Ce qu'on regarde, c'est la permanence. Et tout ce qui émerge, en fait. C'est pas ça le sujet, ce qui émerge. C'est le fait que ça émerge et que ça disparaisse et que ça émerge et que ça disparaisse. Et quand on le voit et quand on est dans, c'est comme il y a un groove, on reste dedans. Et on voit ce qui émerge et qui disparaît, ce qui émerge et qui disparaît. Et puis de nouveau, on part dans une distraction. Là, on n'est plus là. Mais quand on revient au moment présent, allez, c'est reparti. On voit la distraction comme un moment qui était impermanent. Il a duré un certain temps et puis il s'est arrêté. La conscience est revenue. Pendant la conscience, on sait qu'elle ne veut pas durer, donc on en profite un max, parce que c'est agréable d'être conscient quand même. Donc on se dit, bah tiens, on sait que ça va pas durer, donc on profite de ce moment de conscience parce qu'on sait qu'il va repartir. Et là, dans ce moment de conscience, de nouveau, on regarde le va-et-vient de nos perceptions. Extrêmement libérateur. Grand lâcher-prise. Aucune saisie. Dans ces moments-là, il n'y a pas envie que quelque chose dure ou que quelque chose s'arrête. C'est plus comme ça que ça se passe. Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, en fait, ce phénomène, pas simplement la permanence, mais la perception, la solidification, le fonctionnement de la perception, ça, par exemple, c'est une piste. Ah, si y a de l'éros, s'il y a de l'enthousiasme pour vous, à cet endroit-là. C'est une piste à explorer parce que elle va amener des compréhensions qui libèrent, des nouvelles manières de faire l'expérience de soi-même et de nouvelles manières de faire l'expérience du monde. Mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on va devoir faire trouver un chemin pour nous libérer de cet envahissement qu'on subit tous de l'image, du figé, de relationner à tant de choses qui sont en fait merveilleuses. Comme si elles étaient figées et du coup, en fait, ça tue. Ça tue la relation qu'on a avec ces choses et ça tue la relation qu'on a avec nous-mêmes. Il faut trouver une manière de se libérer de ça. Combien de beaux moments on passe avec des gens qu'on aime et pris dans ces images et sans se rendre compte qu'en fait, ce moment-là ne se reproduira plus jamais. On le voit comme un moment de plus en famille ou un moment de plus avec un tel et on le vit d'une façon extrêmement superficielle au lieu d'en profiter pleinement. Regardez, le summum de la permanence, c'est la mort. Hein, c'est là, c'est quand on en parlait un petit peu tout à l'heure, quand on a la notion de la mort. Et pour moi, il n'y a rien de morbide dans la notion de la mort. Et même ça s'allège en fait avec le temps. Il y a des moments, je me dis même que si ça se trouve, le jour où je vais mourir, je vais voir ce que c'est, je vais me dire, ah non, mais c'était ça, mais tout ça pour ça. Si ça se trouve, c'est bien en fait. Peut-être que il y a beaucoup de douleur et tout ça, et on peut appréhender ça. Mais si ça se trouve, la mort en fait, c'est super. On n'en sait pas, mais culturellement, on a une histoire autour de la mort. Et d'ailleurs, dans d'autres cultures, il y a d'autres histoires et du coup d'autres relations. Mais regardez ce qui se passe à un enterrement. À un enterrement, très souvent, il y a de la connexion entre les gens. Les gens se parlent. Les gens se rencontrent, il y a une vraie rencontre souvent qui se font aux enterrements. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. Il y a aux enterrements, c'est là que des choses se disent. Il y a vraiment un sentiment d'être connectés les uns et les autres. Il y a une sensibilité. On n'est pas dans cette représentation et dans ces jeux d'images en fait. Ça c'est cassé parce que il y a la présence de la mort. Un tel est parti et on a la conscience qu'on va tous partir et que ce moment en fait, ben, je suis content de te voir parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça ravive la vie. Ça désolidifie. Ça enlève cette notion que les choses sont solides. Et là, on n'aura plus le temps. En fait, je pense que si vous êtes passionné par ce genre de réflexion et si vous sentez qu'elles ont un pouvoir libérateur énorme, vous pouvez prendre le temps, un moment, chez vous. Ces discours, ils sont enregistrés. Vous pouvez prendre le temps de faire le lien entre ce qui vient de se dire maintenant, le processus de solidification, et méta. Le fait de se remettre à aimer, de voir les gens et de leur souhaiter du beau. Il y a en fait des liens à faire qui peut vite devenir évident. Voir que la méta va aussi désolidifier. Que le fait de désolidifier va permettre aussi le contact, de laisser passer l'amour, qui sinon ne passe pas du tout parce qu'on n'est pas là en fait. On rentre chez nous, salut. Il y a personne en fait. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'amour qui passe. Merci pour votre écoute.
Et un petit mot de la fin. Soutenu par l'association Dharma Nature, je fais le choix de proposer ces discours de façon libre et non commerciale. Si vous appréciez les écouter, s'ils vous sont utiles, pensez à nous soutenir de temps en temps avec un don que vous pouvez envoyer depuis le site www.dharmanature.org. Sachez qu'aucune somme n'est trop petite, car votre démarche exprime votre considération, et ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et une belle pratique.